Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et bienvenue dans Radio Foot International sur RFI avec cette grande soirée européenne qui se profile. Et aussi sur l'antenne de RFI, puisque vous pourrez la suivre. Et suivre notamment en direct le PSG qui reçoit le Napoli au Parc des Princes. Les Parisiens doivent l'emporter pour espérer continuer sur la scène européenne. Doivent-ils avoir peur des Napolitains premiers de leur groupe? Alors face au quatuor offensif du PSG, eh bien l'équipe italienne compte évidemment sur un entraîneur habitué de la compétition, Carlo Ancelotti, et qui en plus connaît bien les Parisiens. Un match test en tout cas ce soir pour Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand. Match test aussi pour Monaco qui pourrait dès ce soir être éliminé de la compétition si son équipe emmenée par Thierry Henry ne réussit pas à renouer avec la confiance. Une chance peut-être celle de jouer face à Bruges, mais aller en Belgique chercher des points pour cette équipe qui accumule les défaites, ça ne sera pas facile. Autre rencontre prometteuse de la soirée, Dortmund-Atlético Madrid, les jaunes et noirs de Lucien Favre face aux Colchoneros de Diego Simeone, et puis Barça-Inter, des Blaugrana sans leur Messi.
Mr. Bonucci, Mr. Chiellini, they could go to some Harvard University to give classes about how to be a center defender.
L'ironie de José Mourinho qui encense donc les défenseurs de la Juventus, qui les envie peut-être d'ailleurs. Cette ironie peut-elle suffire à masquer la défaite de son équipe? La Juventus était certes plus forte, mais les Manquiniens ont été battus sans montrer beaucoup de réactions et suscitant toujours des critiques et des doutes en Angleterre. Peut-être chez vous aussi, Habib Bey, bonjour.
Énormément, bonjour.
Vous y étiez hier soir à ce match. C'est pour ça que je me suis tournée aussi vers vous. Dominique Sévrac à vos côtés.
Bonsoir, je n'ai pas peur. Le plaisir
vous êtes
de
parisien?
Vous retrouver. J'habite à Paris déjà, c'est déjà pas mal.
Mais vous n'avez pas peur, c'est déjà une grande nouvelle. Bruno Constant, bonjour.
Bonjour, moi j'ai pas peur non plus, mais je crois pas beaucoup plus en Manchester United.
Oui, ça je crois qu'en ce moment, personne ne n'oserait miser beaucoup sur eux. Frédéric Suto, est-ce que vous avez peur?
Non, on est même prêt à aller au Parc des Princes tout à l'heure, à pied, comme
vite.
José Mourinho
hier,
qui est descendu du bus.
Qui est descendu du bus.
Hein, nous aussi.
Vous irez avec Dominique, main dans la main.
Nous sommes en marche.
Mais... un quart d'heure du parc.
Voilà, exactement.
C'est un marcheur, effectivement, Fred. Radio Foot, c'est parti.
Tu as dit nous sommes riches et nous sommes les favorites, mais je ne pense pas comme ça. À mon ami, nous ne sommes pas du tout. Et pour ça, c'est un match dans un groupe très, très compliqué et c'est mon avis.
Le Paris-Qatar, comme a ironisé le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, un brin provocateur. Est-il donc le favori de ce match qui oppose dans ce groupe le troisième au premier des Parisiens qui jouent sans doute ce soir sur leur pelouse leur avenir dans la compétition? Paris n'est-il pas favori dans son jardin pour l'instant, selon vous, Dominique?
Vous aussi, vous êtes un peu provocateur. Hein, les Pink Floyd avec Monet.
C'est David Finzel qui est très
derrière,
provocateur. Vous allez voir.
Il aime les Pink Floyd, c'est pour ça. Alors, Paris est-il favori? Oui, Paris joue à domicile.
Vous n'êtes pas sur la ligne de Tuchel, alors?
Ah bah oui, non, mais je pense que la question était sur la Ligue des Champions.
Oui.
Il n'est pas le favori pour gagner la Ligue des Champions, ça c'est sûr. Le Paris Saint-Germain, ils ne vont pas la gagner sans être arrivé au moins une fois en demi-finale une année avant, quoi. Ça me paraîtrait être un coup de théâtre assez improbable. Même Liverpool, qui était fantastique l'année dernière, est parvenu en finale après des années. Mais il n'a pas gagné, parce que vous tombez sur un monstre ce jour-là. Donc le favori de la compétition, non. Le favori du match, oui. Vous êtes à domicile, vous avez fait des investissements ces dernières années qui sont faits pour ce genre de match.
On vous parle comptez du 19 matchs en phase de Ligue des Champions sans perdre.
Voilà, vous rencontrez le Napoli qui n'était pas l'épouvantail au moment du tirage au sort, c'était plutôt Liverpool. Donc effectivement, Paris a toutes les armes pour gagner. Après, on va voir le match. Hein.
On va voir les armes, surtout.
On va voir ce que ça donne. Mais ça sera difficile, ça sera tactique, ça sera intense. Rien de ce que vit le PSG au quotidien ne le prépare à ce qu'il va subir ce soir. Mais Paris a beaucoup d'arguments pour gagner.
Habib?
Oui, bon, pour moi, individuellement et collectivement, ils sont supérieurs à cette équipe de Naples. Après, ce qu'il faut relativiser, c'est l'enjeu d'un match de Ligue des Champions avec tout ce que ça implique. J'ai revu aussi mon jugement parce que j'ai été au match Naples-Liverpool et j'avais encensé Liverpool face au Paris Saint-Germain. J'ai vu une équipe de Liverpool qui a été incapable de développer du jeu, incapable de développer ses forces face à une équipe du Napoli qui a été très très bien organisée, à Naples face à cette équipe anglaise qui avait plus ou moins ratatiné le PSG sur la première période. Donc je pense que la force de ces trois équipes pour moi est assez identique, c'est-à-dire qu'on peut pas aujourd'hui dire que Liverpool est le favori, Naples est le favori. Je pense qu'il y a trois équipes qui dans ce groupe peuvent prétendre finir première et éventuellement se qualifier pour les huitièmes de finale. Et ce qui est sûr, c'est comme l'a dit Dominique, c'est Carlo Ancelotti, c'est Naples, c'est une équipe qui tactiquement lorsqu'elle joue très très bien, elle arrive aussi à annihiler les forces de l'adversaire, donc il faudra pour le Paris Saint-Germain être très très fort et surtout impliqué et beaucoup plus qu'il ne l'avait été face à Liverpool par exemple.
Sachant, avant que Bruno parle, c'est plus le même PSG a priori que le 18 septembre à Anfield, parce que depuis c'est passé des choses, les mondialistes sont revenus, leur saison a vraiment commencé, physiquement notamment, c'est plus le même PSG.
Bruno. Enfin,
j'allais poursuivre, c'est plus le même PSG, c'est plus le même Liverpool non plus, qui était magnifique en début de saison, un petit peu plus à la peine, un peu moins de marche que les semaines précédentes. Et contre Naples, par exemple, ils avaient été méconnaissables. Hein. Effectivement, ils avaient eu gros soucis, mais ils avaient été méconnaissables dans l'engagement et l'intensité. Et puis, c'est plus la même équipe de Naples non plus, celle qui avait fait match nul face à l'Étoile Rouge. Et ils sont beaucoup plus solides aujourd'hui, notamment depuis trois rencontres. Donc, c'est trois forces costaudes qui ont leur carte à jouer. Surtout Liverpool a gagné à domicile leur premier match face à un favori et un concurrent. Naples l'a fait face à Liverpool. Le PSG doit le faire aujourd'hui face à Naples. C'est impératif.
Exactement. Un vrai test pour cette équipe du PSG, Frédéric.
Oui, et pour revenir, monnaie, Qatar, PSG. Non, mais c'est pas anodin tout ça. Déjà avant le match contre Liverpool en ouverture, Jürgen Klopp, il était parti sur ce terrain-là, disant « c'est Paris le favori. Regardez, Mbappé, Neymar, 400 millions. » Enfin, c'est quand même une rengaine qui revient et les adversaires
beaucoup,
du PSG en jouent bien évidemment. Ils leur mettent la pression en leur disant « comment voulez-vous qu'on soit favori face à une équipe de milliardaires ?»
Avec toutes vos stars. Mmh. Et justement, la force de Paris, elle réside dans ces stars qui coûtent si cher. Sur quatre joueurs offensifs, Thomas Tuchel aime toujours à souligner qu'il n'y a pas que ce duo entre Mbappé et Neymar. Il y a aussi Di Maria d'un côté et Edinson Cavani, encouragé, couvé hier par son entraîneur pendant la conférence de presse. Frédéric, il était à votre micro.
Il est un peu triste. Après le match contre Amiens, il n'a pas fait un but. Et c'est avec des joueurs, avec le numéro 9, c'est toujours comme ça. Ils sont tristes quand ils ne font pas de but. Mais je lui dis que la chose va arriver quand il fait un bon travail pour nous, quand il travaille dur pour nous, le but va arriver et c'est un match spécial pour lui. Et j'espère qu'il fait un but.
C'est peut-être aussi l'importance de Tuchel, c'est de faire rentrer Cavani au moins dans ce duo, on sait qu'il se complète bien, entre Mbappé et Neymar, Frédéric.
Il ne veut pas le perdre, il ne faut surtout pas le perdre. Là, Edinson Cavani, qui ne marque plus beaucoup depuis quelques matchs.
Lui font le,
mais
les
c'est
yeux
vrai qu'il a été longtemps dans l'ombre de Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic est parti, il a eu ces deux saisons là où Cavani était tout seul devant, il enfilait les buts, record de buts, plus de 30 buts dans la saison. Et c'est vrai que là, on sent bien qu'il y a cette complicité entre Neymar et Mbappé.
Et surtout,
de là à penser qu'il y a une stratégie pour le mettre de côté, on n'en est pas là. Contre Amiens, les occasions, on a revu les images, il les a eues, il y a eu des loupés monumentaux.
Il y a un centre de Bernat, notamment, où il est...
Mais il y a la confiance qui doit s'effriter forcément. C'est un buteur.
Paris reste sur un festin, 16 buts, 5 contre Lyon, 5 contre Amiens, et entre-temps 6 contre l'Étoile Rouge. Il a marqué 1, lui, sur les 16. Donc forcément, il subit le contre-coup, à mon avis, du mondial.
Il a fait un très bon mondial jusqu'à la blessure.
Le contre-coup de carton rouge contre Lyon, il est sorti. Kimpembe, carton rouge, lui, c'est lui qui a choisi de sortir. Et
Thomas Tuchel s'en est presque excusé hier. Je l'ai sorti contre Lyon.
C'est logique aussi.
Tactiquement, ça s'est révélé juste. Et le score donne raison à Tuchel. Et puis, il est physiquement un petit peu moins bien. Et la relation Mbappé-Neymar l'exclut. Et je pense que le problème ne vient pas de lui, mais d'eux. C'est à eux de jouer avec lui.
Mais ce soir, c'est Naples, Annie. Son ancien club, donc...
Et Naples qui lui fait les yeux doux, parce que De Laurentiis, alors toujours sur les histoires d'argent, a dit... S'il souhaite revenir en baissant son salaire, on le reprend tout de suite.
Ce qui est courant dans le football.
Exactement.
Moi, je crois pas un instant à ça, en fait. C'est-à-dire que Cavani, aujourd'hui, il a pas marqué depuis quelques matchs, mais c'est un épiphénomène. C'est un joueur qui va continuer à marquer. Il est fait pour ça, il est né pour ça. Après qu'il soit exclu de cette alchimie qu'il peut y avoir entre Neymar et Mbappé... Aujourd'hui, on a l'impression
que... Il y avait
des
chiffres,
que...
vous vous souvenez, ouais. Abibin, c'était, je crois, au Real, face au Real, où ils n'avaient pratiquement jamais passé le ballon, les deux, Neymar et Mbappé, à Cavani.
Oui, non, mais c'est bien d'avoir cette analyse sur Neymar et Mbappé, mais l'analyse de Neymar et Mbappé, on l'a eu face à une équipe de Lyon qui s'est complètement désolidarisée, qui a offert 40 mètres, 50 mètres à Mbappé avec un Neymar passeur. Lorsque le PSG va tomber face à des blocs bas et que Mbappé n'aura pas cette profondeur, que Neymar n'aura pas cette capacité à avoir justement cette liberté, un Cavani dans une surface de réparation, c'est essentiel au Paris Saint-Germain. Ouais. Et c'est souvent ces matchs-là que vont rencontrer le PSG. Ce qu'a fait Lyon contre le PSG, tout le monde a dit « Ah ouais, Lyon a été exceptionnel pendant une heure ». Mais pendant 30 minutes, ils ont été catastrophiques. C'est-à-dire catastrophiques. Ce qu'ils ont offert au PSG, c'était un suicide collectif. Donc, ce qu'aujourd'hui, le fait de dire « Ouais, ça y est, Neymar, Mbappé, ils pourraient éventuellement jouer tous les deux à la pointe de l'attaque du PSG. Ok, pas de problème, on l'entend. Mais de zapper comme ça Cavani en pensant que parce qu'il n'a pas marqué depuis 3 ou 4 matchs, il n'est plus devenu essentiel au PSG, pour moi, c'est se tromper. Et vous allez voir que Cavani, dans 2-3 semaines, le débat, il n'aura plus lieu parce qu'il aura remarqué et sera de nouveau un joueur important pour le PSG.
Mais pour qu'il marque, Habib, parce que je suis d'accord avec toi, mais il faut qu'il ait des ballons. Parce que ce n'est pas un joueur qui se met de ses buts tout seul. Et donc, pour que les ballons arrivent dans la surface, alors certes, ça peut venir par les latéraux, ça peut venir par Di Maria, mais à un moment donné, il va falloir aussi que, parce que moi, je l'ai dit que le problème de deux, que Mbappé et surtout Neymar lui donnent les bons ballons dans la surface.
Il y a du vrai contre l'étoile rouge de Belgrade. Il a réussi à en mettre un. Il en a mis 6, mais il l'a mis tout seul dans la surface. Il a fallu crocheter, on lui a pas donné.
Tout le monde en aurait mis un face à l'étoile rouge. Mais non, mais après, on en revient au problème. On en revient au problème entre Cavani et Mbappé et Neymar. C'est pas le même football. Alors, ils peuvent jouer ensemble, ils sont capables de le faire, mais pas de la même façon. Neymar et Mbappé, c'est beaucoup de petits espaces, d'échanges, de jeux à une touche, alors que Cavani doit être servi très rapidement, presque en jeu un peu direct ou effectivement de qualité de centre.
Ils peuvent se compléter, non ?
Bien sûr qu'ils peuvent se compléter, mais il faut qu'ils soient servis un peu plus tôt aussi, Cavani. Et le problème, c'est que si ils commencent à monopoliser le ballon, les deux commencent à monopoliser le ballon, à faire des passes, des échanges, des 1-2 dans des espaces réduits, Cavani, dans ce genre de jeu, il sert à rien. Il sert strictement rien. S'il n'est pas servi en première intention sur des centres ou sur des courses vers l'avant, il sert strictement rien. Et c'est un problème qui va se poser dans les mois à venir.
Oui, c'est sûr. Mais tu as vu les difficultés d'un duo comme Neymar et Mbappé l'année dernière face au Real Madrid, face à une défense qui était très concentrée, très très basse, on te laisse très très peu d'espace pour avoir justement cette qualité de petit jeu. Ils ont eu du mal à s'en sortir lorsque Cavani avait été justement remplacé par Unai Emery. Moi, je pense que ces trois-là, en fait, doivent trouver une alchimie. Comme l'a dit Dominique, c'est aussi à Mbappé et à Neymar de comprendre, pas qu'il faut intégrer Cavani, c'est que sans lui, ils ne peuvent pas, en fait, faire la différence.
Il faut varier le jeu.
Et c'est tout le rôle de Tuchel.
Ils sont obligés de varier le jeu, en fait.
C'est son défi, parce que moi, je pense que,
On voit que depuis le début, il l'a toujours mis dans la boucle.
Bien sûr, mais ils pourront pas sortir de la poule et espérer, une grosse campagne européenne si les trois, et même les quatre, si Di Maria continue à jouer, si les quatre ne se trouvent pas et défendent et voilà.
Parce que Liverpool, t'as raison, mais Liverpool, Cavani, pourquoi il défend moins? Parce qu'il voit que les deux ne défendent pas du tout. Donc au bout d'un moment, il se dit, moi c'est bien gentil, je dois courir, je dois défendre. Mais si les deux mecs ne défendent pas et qu'on leur dit rien, parce que sur ce match-là à Liverpool, on ne leur a rien dit pendant 90 minutes, lui, à un moment donné, il dit, ok, pas de problème, c'est eux qui récoltent les lauriers. Et puis moi,
ce qui prouve bien qu'il y a un souci.
Non, mais c'est quand même un des attaquants.
Si un attaquant se dit, je défends plus parce que les autres à côté de moi défendent plus. Il y avait des gros soucis, on est qu'au début de la saison.
Liverpool, encore une fois, c'était le début de la saison.
Mais non, mais on a un problème dans l'expression collective offensive, et en plus, on a même problème maintenant dans l'expression défensive. Il défend plus.
Je pense que Liverpool, pour moi, était un révélateur. Je pense que c'est la meilleure chose qui soit arrivée au PSG cette saison. Parce que si, par exemple, Paris Saint-Germain avait fait 2-2 contre Liverpool, ça aurait validé l'attitude de Neymar et Mbappé. Ces deux joueurs-là auraient dit, regarde, on n'a pas couru, on n'a pas fait ce qu'on avait à faire défensivement, et mine de rien, on fait match nul. Le fait qu'ils aient perdu, ça a été malgré tout une piqûre de rappel. Et même si Tourelle a communiqué positivement après cette défaite, je peux vous garantir qu'après, moi j'en ai discuté avec Papus Camara, ils ont été recadrés collectivement, pas forcément individuellement, mais collectivement, de dire si vous voulez gagner la Ligue des Champions, si vous voulez gagner des grands matchs, regardez ce que fait Mohamed Salah, regardez ce que fait Sadio Mané, regardez ce que fait Firmino, et sans ça, on ne pourra pas le faire. Et tout de suite, il y a eu une réaction contre Reims. On se rappelle de ce match où ils ont pressé, où j'ai vu des joueurs comme Mbappé et Neymar. Alors, ça n'est que Reims, mais qui ont défendu. Si ce soir, ils font la même chose en Ligue des Champions, on a une toute autre équipe du Paris
Saint-Germain. On va le voir face à Naples, parce que l'un des points forts de Naples, c'est les côtés. C'est Calderon côté droit et c'est Zielinski côté gauche. Et là où Naples avait fait mal face à Liverpool, c'était sur les côtés. Les dédoublements sur les côtés, qui étaient pourtant un des points forts de Liverpool, Robertson à gauche et Alexander-Arnold à droite, ils avaient pris le bouillon. Ils avaient pris le bouillon total parce que personne venait les aider. ce qui était rare à Liverpool. Mais si, on va voir ce soir, hein, si Mbappé fait pas les efforts sur le côté et Di Maria côté gauche.
Il a commencé en disant Paris est collectivement et individuellement plus fort que Naples. Voilà, on le sait.
Après,
il faut le mettre en application. Ouais. Et tu as vu qu'avec Tourelle, quand même, depuis le début de saison, il se passe quelque chose. Tu as lu les échanges, les joueurs. Alors après, quand un nouvel entraîneur arrive, il y a toujours cette communication là. Mais il se trouve que c'est sincère. Vraiment, ils adhèrent à la méthode Tourelle. Donc ce soir, ça doit se traduire. Il doit y avoir un prolongement dans les faits. Ils doivent le faire non plus contre Reims, contre Lyon, contre Amiens. Ils doivent le faire contre Naples.
Il a recadré un peu Kylian Mbappé hier, en conférence de presse. Avec humour. Quand on demandait s'il pouvait jouer dans le couloir gauche, il avait permuté avec Di Maria ou Neymar, mais je sais pas. Il m'a pas demandé en tout cas.
Il l'a fait tout seul.
Bon.
Habib, sur le plan de la défense, avant qu'on en vienne plus précisément à Naples, le plan de la défense, Kimpembe, c'est peut-être une inquiétude. Thiago Silva ne joue pas. On aura Marquinhos théoriquement et on aura Kimpembe. Kimpembe qu'on n'a pas vu trop bon avec l'équipe de France, qu'on n'a pas vu non plus très bon avec le Paris Saint-Germain cette saison, alors que c'est quelqu'un qui peut l'être.
Jusqu'à son expulsion, ça allait plutôt. C'est la séquence expulsion et deux matchs contre l'Islande et l'Allemagne qui ont introduit une forme de doute. Bon après,
vous en avez pas.
Bah, je me souviens de ce qu'il faisait pour son premier match de Ligue des Champions contre Barcelone, le 4-0.
Bah, on s'en souvient.
Où il a éteint la MSN, c'est ça?
À l'époque, c'était ça.
Parce qu'il y a tellement d'acronymes maintenant que je suis perdu.
Je vous l'ai épargné aujourd'hui, celui dont parlent les journaux.
Donc,
donc
voilà. Après, il a le droit, lui aussi, d'avoir un petit contre-coup du mondial. Il a le droit de pas avoir ses repères au sein d'une équipe de France qui avait un peu tourné. Parce que le premier match contre l'Islande, c'est son Mbappé, justement, qui est sur le banc. Avec Tovin, c'est avec Dembélé, c'est avec Nzonzi, des joueurs qui n'ont pas forcément.
Et puis il est extrêmement jeune, il a 23 ans.
Il a peut-être un petit coup de mou. Pour moi, c'est un défenseur très 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 fort. Donc j'ai pas d'inquiétude.
Oui, et puis surtout, il faut pas oublier qu'avant, il était jugé toutes les 3 semaines parce qu'il rentrait dans un match. Et puis il était très très bon. Et puis ensuite, il repartait sur le banc parce qu'il y avait Marquinhos et Thiago Silva. Et puis on le revoyait 3 semaines après dans un match de Ligue des Champions. Et à chaque fois, on se disait waouh, ce jeune-là, il est en train de monter. Sauf que là, maintenant, il est jugé tous les 3 jours parce qu'il est titulaire tous les 3 jours dans toutes les compétitions. Donc on le regarde avec beaucoup plus d'attention. Le niveau international, on passe un cap sur l'exigence mentale, parce que c'est pas forcément sur le niveau, mais sur l'exigence mentale, on sait que vous êtes regardé, il y a beaucoup plus de pression, et comme on le dit, il est jeune, il a le temps aussi d'apprendre.
Il est champion du monde.
Il est champion du monde, mais il est champion du monde sans avoir joué dans toute cette compétition, donc ça veut pas dire qu'il ne l'est pas champion du monde, il le mérite, et c'est très très bien pour lui.
Bien sûr.
Par contre, il va falloir qu'il trouve une régularité dans ses performances, et surtout qu'il soit pas dans cette nonchalance dont on a pu le voir, rappelez-vous, contre l'Allemagne, où il joue un petit peu. C'est l'Allemagne ou l'Islande où il joue la couverture?
L'Islande.
C'est l'Islande.
Voilà. C'est l'Islande où il fait David Luiz, il fait son
Il fait une couverture alors qu'il sait très très bien. Et d'habitude, il n'est pas du tout dans cet aspect-là, parce que c'est un défenseur qui est très rigoureux. Bon, il a joué un petit peu au bluff, il s'est fait avoir, ça va lui faire apprendre, et très très vite, le haut niveau.
Bon, on verra ce soir si c'est le même que celui qui avait joué ce fameux match contre le Barça. Les atouts de Naples, alors, est-ce que cette équipe qui flambe en Serie A, qui reste dans la roue de la Juventus, qui est le fidèle dauphin des Bianconeri, qui essaye en tout cas de décrocher le titre chaque année, bon, cette année c'est peut-être bien, en tout cas, elle s'est bien adaptée, cette équipe, à son nouvel entraîneur, qui est Carlo Ancelotti, dans un français qui n'a pas oublié hier en conférence, Frédéric Suto, a évoqué le très bon moment que traverse son équipe.
On va essayer de montrer notre qualité sur le terrain. Je ne sais pas si il est suffisant pour gagner les matchs. On est en ce moment un très bon moment physique comme mentalité et on va essayer de faire un bon match. Paris Saint-Germain est une équipe très très forte, mais on doit être focalisé sur notre stratégie et sur notre comportement dans le terrain. Rien de plus.
Naples, il y a des entraîneurs étrangers qui arrivent à parler français, donc. Hein.
Exactement.
Tourelle, Ancelotti, ceux qui étaient au Paris Saint-Germain, il y en a qu'un qui n'est pas réussi. Mais bon.
Maintenant, il parle anglais.
Laurent Blanc, non. Il n'arrive pas beaucoup plus en anglais. Hein. Il n'arrive pas beaucoup plus en anglais.
Ouais, on l'a passé une fois,
il gagne
des matchs.
Il en gagne 10 de suite.
On a beaucoup parlé hier. Frédéric, donc, il nous vend un Naples dans un bon moment. Est-ce que c'est Carlo Ancelotti aussi, l'atout maître de cette équipe de Naples? Lui, l'homme expérimenté des Ligues des Champions.
Bah, il a quand même un sacré palmarès. Ben, hein, oui. Que ce soit en tant que joueur, il l'a gagné deux fois. En tant qu'entraîneur, il l'a gagné trois fois dans deux clubs différents. Il sait faire. Il arrive à Naples après Maurizio Sarri, donc qui lui avait bien fait jouer cette équipe, le beau jeu, tout ça, mais pas de Scudetto, hein, pas de Scudetto à l'arrivée. Et finalement, on dit qu'il a plus un profil peut-être de manager que d'entraîneur, mais est-ce que ce n'est pas de cela que l'équipe a besoin? Il est proche des joueurs. Bon, on l'avait vu à Paris, hein, tout le monde avait un peu regretté son départ précipité quand il essayait de lancer les fondations de l'ère Qatari, et c'est ce qu'il va essayer de faire avec Naples, hein, pour passer la dernière marche, hein, que ce soit en Italie ou en Ligue des Champions.
Alors, on se souvient en plus que Carlo Ancelotti était venu l'an dernier avec le Bayern pour se faire un espèce de harakiri dans le Parc des Princes. Cette année, il a peut-être envie de faire autre chose, Dominique. C'est ça le danger aussi.
Hier, dans sa conférence de presse, c'était fantastique. Il a dit, quand je suis venu la dernière fois, j'avais soutien de 5 joueurs.
Ouais,
donc, le gars, il dit, voire plus, parce que Bayern, ils sont quand même assez nombreux. C'est rare qu'un entraîneur balance comme ça un petit peu, que tout le monde l'avait lâché.
Il n'a pas trop avalé cette histoire.
Et que, bon, c'est pour ça qu'il y avait une compétition très surprenante. Il n'y avait pas Boateng, il n'y avait pas Hummel. Il n'y a pas Robben, il n'y a pas Ribéry.
Les cadres n'étaient pas là.
Bon, il s'était fait un peu harakiri, effectivement. Et le lendemain, il était limogé. Là, il n'y a pas de risque, hein, même s'il perd.
Oui, il peut perdre.
Ils sont quand même en tête du groupe, là, déjà. C'est quand même une performance. Et après,
le prochain match sera là-bas.
S'ils prennent goût à cette Ligue des Champions, et quand on a 4 points et qu'on est en tête, on aurait tort de les lâcher. Le problème, c'est ce que Naples peut faire les deux. Parce que Naples, l'obsession, c'est quand même depuis quelques années de regagner le Scudetto. Et donc, est-ce qu'ils peuvent aller loin en Ligue des Champions? L'année dernière, Sarri avait quand même fait plutôt le choix de privilégier le championnat, même s'ils sont
notamment
fait éliminer.
Après l'élimination, enfin après qu'ils avaient été renvoyés en Europa League.
Voilà.
Mais avant, bon, Ligue des Champions,
c'était pour un but, mais bon,
ouais, ça va être compliqué. Hein. Vu leur effectif, la profondeur de banc qu'ils ont par rapport à la Juventus de Turin, c'est quand même une grande difficulté pour Naples. Après, Dominique, ils peuvent perdre, ça n'existe pas en football. Vous avez dit Naples, ils peuvent perdre.
Non, mais ils peuvent perdre et Carlo Ancelotti sera encore l'entraîneur demain matin, c'est ça que
je
voulais dire.
J'ai eu peur.
C'est pas le même contexte qu'il y a un an quand il est venu avec le Bayern.
Tu me disais ils peuvent perdre, c'est pas très très grave.
Ah non, non.
Okay. Ah non, ils peuvent perdre, Carlo restera.
Oui. Heureusement, parce qu'il
n'y a pas de compétition,
il n'y a pas de défaite encourageante.
J'ai eu peur à l'instant.
L'année dernière, il aurait peut-être gagné, il aurait quand même été limogé.
Oui, non, ce qui est sûr, c'est qu'il est différent de Sarri dans son management, parce que Sarri, il faut pas l'oublier, était dans un management quand même assez restrictif, où il était parfois en conflit avec ses joueurs. J'en ai discuté d'ailleurs avec Koulibaly, le défenseur, alors que Ancelotti est très très proche de ses joueurs. Et là où j'arrive pas à comprendre, c'est lorsque certains font d'Ancelotti juste un manager. Lorsqu'on regarde le match contre Liverpool, c'est d'une qualité tactique exceptionnelle pour justement annihiler les forces de Liverpool. Il a complètement empêché justement Robertson, dont tu parlais, et Alexander-Arnold d'évoluer, avec Fabian Ruiz sur le côté gauche qui d'habitude normalement est suppléé par Zielinski. Donc on verra le choix qu'il va faire ce soir, puisqu'en plus Fabian Ruiz a marqué un magnifique but pied droit. Après, c'est vrai que sur les côtés, ils sont très très bons. Donc pour le Paris Saint-Germain, c'est aussi des faiblesses. On le voit parfois avec Thomas Meunier lorsqu'il est trop porté sur l'offensive, ou éventuellement Bernat sur l'aspect défensif. Donc je pense que Ancelotti a cette faculté malgré tout à très très bien préparer ses équipes face à l'adversaire.
Mais c'est marrant cette réputation qu'il traîne là de pacificateur. C'était le titre de Marca quand il arrive au Real Madrid, de garçon qui est là pour gérer des groupes.
Et
on parle pas du tout de sa science tactique. Il s'en amuse dans France Football cette semaine, une interview passionnante où il dit bon bah écoutez, on retient pas mes qualités tactiques, tant pis pour moi, c'est pas grave, je m'en accommode, j'ai 58 ans, quel âge il a.
Mais c'est le charisme qu'il dégage, voilà. Peut-être naturellement, cette bonhomie, ce sourire.
On n'a pas des attitudes tactiques au-dessus de la moyenne.
Non, mais après il suffit de regarder dans les différents systèmes dans lesquels il a évolué. 4-4-2 au Milan AC, il y a eu l'arbre de Noël, le 4-3-3 qui est aussi employé à Chelsea. Là, il change encore.
Et au Paris Saint-Germain, on
s'en
souvient.
Et notamment sur ce match, et Klopp disait avant le match face à Naples que Ancelotti est un renard rusé. Qu'il est malin, qu'il sait adapter son équipe un peu à l'adversaire. Et c'est ce qu'il a fait en fait face à Liverpool. Ils avaient joué en amical l'été. Exactement. À Dublin, ils avaient pris 5-0. Et Ancelotti avait expliqué qu'il avait changé son système, qu'il était passé à 3 derrière face à Liverpool parce que Salah et Mané avaient sans arrêt sollicité la charnière centrale. Il avait mis une défense à 3 et ça avait parfaitement fonctionné. Il peut aussi s'adapter face au PSG, notamment appuyer sur les joueurs de côté du PSG qui sont pas le point fort du club parisien.
Alors ça sera à partir de 20h50 sur l'antenne de RFI, Frédéric Suto.
Oui, 18h50, temps universel. On ne va pas trop tarder d'ailleurs, parce qu'on s'est engagé à y aller à pied, on peut pas reculer maintenant.
Vous y allez en courant peut-être alors.
3-1 pour le PSG.
3-1 Alors Dominique...
Je peux commencer mon papier.
Ouais, je peux y aller. 3-1 pour le PSG, je pense.
Et Dominique
2-1. Rien ne sera facile.
Bruno.
3-2, allez. Il y aura des buts.
Ah, moi, Frédéric. Je ne fais pas de pronostic.
Il ne fait pas de pronostic, il va aller voir le match. Dans l'autre groupe, l'autre match, ça sera donc Liverpool qui reçoit l'étoile rouge du côté.
A priori, c'est 6 points lors des 15 jours qui arrivent. Là.
Théoriquement.
Je fais des ronds ou bien des bulles, je fais faux bon ou bien match nul. Je fais des galas ou des galères, je reste comme ça ou je persévère. Stop! Encore. Stop. Encore.
Dominique,
c'est encore David Finzel après les Pink Floyd, c'est quoi là?
C'est tout David Finzel dans l'émission, vous allez voir. Alors là, c'est pas les Pink Floyd, hein. C'est un chanteur belge et qui s'appelle Plastic Bertrand, je sais pas.
On a de l'avenir dans la chanson. Ça a fait un tube. On a de l'avenir dans la chanson.
Ça plane pour moi.
C'était un style, en tout cas. Alors il dit stop ou encore sans doute à l'adresse de Thierry Henry, l'ancien Gunner et Blaugrana habitué de la Ligue des Champions. Et qui est aujourd'hui, eh bien, à la tête d'une équipe qu'on peut dire quand même en perdition, qui se risquera donc à Bruges en Belgique. Monaco, qui a perdu son 4e match consécutif en Ligue 1, ses 2 matchs européens, mais qui peut retrouver la confiance ce soir, explique Thierry Henry.
C'est quand même un rêve, tu veux la jouer, tu veux y participer, et nous, en l'occurrence, à l'heure actuelle, on peut essayer de retrouver la confiance. Attention, c'est pas facile de venir gagner ici, c'est une équipe qui se bat jusqu'à la fin. Tout le monde attaque, tout le monde défend. Et ils courent tous. Il y a des joueurs de qualité, Vormer, Wesley, Van Aken. Les joueurs sur les côtés aussi vont très vite. Donc voilà ce qu'on va devoir essayer de bloquer. Maintenant, je pense que c'est bien quand même d'avoir un match après Strasbourg. Ça te permet de pouvoir reprendre confiance et de moins cogiter sur certains trucs dans la semaine.
Bruno Constant, stop ou encore pour Monaco ce soir en Ligue des Champions?
Ils ont pas le choix, il faut faire le plein des 6 points sur le match aller-retour, mais moi j'ai l'impression qu'on pense que ça va être un peu trop facile pour Monaco face à Bruges, comme si c'était Bruges était vraiment en dessous de Monaco.
Ah non, c'est pas vraiment ce qu'on dit là. J'ai lu plusieurs
commentaires depuis quelques jours, Monaco doit se relancer, ils peuvent même peut-être espérer la qualification en faisant le plein de points face à Bruges. Quand on voit Monaco, la façon de jouer de Monaco, je suis un peu plus inquiet. Et puis surtout, on pense que Thierry Henry va être un magicien et qu'il va changer les têtes, qu'il va redonner confiance à tout le monde et que ça va repartir. Parce que Ligue des Champions, c'est une compétition différente. Effectivement, ça peut donner un nouvel élan. Mais ça part du terrain et de ce que j'ai entendu, les échos que j'ai eu d'Henry, son premier retour sur ce qu'il a vu, parce qu'il a fait, avant même d'arriver, il a dressé un constat de tout ce qui passait, notamment le service médical, le clan médical, où il y a un énorme souci avec les blessés.
Énormément
de blessés. Il était très inquiet et il s'est donné 3 mois pour espérer de remettre de l'ordre dans la maison. Donc, 3 mois, il va falloir, lui, c'est déjà beaucoup de temps de voir si la maillot se prend. Et voir comment il va appliquer ses principes de jeu, quoi. C'est ça aussi.
Beaucoup de blessés chez les jeunes, sur lesquels évidemment on sait que Monaco compte chaque année. Et puis Ronny Lopez qui est blessé, Falcao qui s'est blessé au dernier match, Subasic qui est toujours blessé. Habib, est-ce que cette équipe doit faire un choix? Parce que Thierry Henry ne peut pas le dire, bien sûr, mais doit faire un choix et se consacrer plus à son championnat qu'à la Ligue des Champions.
Non, je ne suis pas sûr qu'il faille faire un choix. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut prendre les matchs. Alors après, c'est encore un cliché de footballeur, il faut prendre les matchs les uns après les autres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'ambition de Monaco, ce n'est pas de penser à se qualifier pour la 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est de penser à emmagasiner de la confiance pour les événements qui vont arriver, c'est-à-dire la Ligue 1. Donc, le match de Ligue des Champions est un match où, justement, en plus, ça arrive contre Bruges, qui est quand même le petit poussé de ce groupe quand on voit Dortmund et l'Atletico. Et c'est peut-être le match parfait pour Thierry Henry d'essayer de tenter des choses, de mettre en place ses principes pour aller chercher une victoire qui permettrait d'emmagasiner de la confiance pour la Ligue 1. Parce que l'urgence aujourd'hui pour Thierry Henry, c'est surtout de remettre cette équipe sur pied pour le championnat de la Ligue 1. Parce que
qui est 19e, sur 20.
Exactement. Je crois pas que l'ambition de Thierry Henry aujourd'hui, c'est de se dire faut que je batte Bruges 2 fois pour passer en 8e de finale. À mon avis, il est loin de tout ça. Et comme l'a dit Bruno, il y a un constat qu'il a fait depuis son arrivée et avant son arrivée, c'est que Monaco est en grande difficulté sur le plan de la confiance. Difficulté parce qu'il y a des joueurs blessés. Je crois qu'il y a eu quand même une mauvaise gestion, même si c'était dans l'urgence, de faire jouer Falcao qui revenait d'un voyage important, on le voit blessé, donc ça c'est peut-être une erreur qu'il a dû aussi regretter. Maintenant, ils vont à Bruges et il faut se mettre dans ce match-là avec détermination et surtout essayer de regagner cette confiance qu'ils ont perdu. On l'a vu à Strasbourg, dès qu'ils ont pris ce but, on avait l'impression que tout le monde était un petit peu la tête dans le sac. À l'image de Grand Cyr qui rentre, on a l'impression qu'il est complètement perdu avec ce geste qui est presque irréel.
Il prend un carton rouge.
Alors qu'il vient de rentrer dans le match. Donc je crois qu'il est loin de penser à ce 8e de finale de Ligue des Champions. Je pense qu'il se dit l'urgence, c'est ces 90 minutes. Essayer de retrouver un petit peu de confiance, mettre en place mes principes de jeu, essayer de voir si les joueurs le respectent.
Dominique ?
Déjà, Strasbourg a eu tellement de bons défenseurs dans l'histoire que c'est pas possible de survivre à Strasbourg, déjà. Non, le problème pour Thierry Henry, et Bruno l'a dit, c'est que quand vous appelez Thierry Henry, vous avez un problème, c'est que les gens croient que ça va marcher tout de suite. Mm-hmm. Les gens pensent que vous êtes un magicien. Or, c'est un entraîneur de football, on a parlé avant de gens comme Klopp, Ancelotti, Tourelle. Des gens, en général, il faut 2 mois pour façonner une équipe à son image, de ce que, pour l'emmener là où
on veut
l'emmener.
Et lui, c'est le deuxième match.
Et lui, c'est son deuxième match. Alors, je veux bien croire au choc psychologique, au fameux, un autre cliché du foot. Parfois, ça peut marcher sur un match. On arrive, les gars veulent se montrer. Bon, il y a un petit changement par rapport à l'entraîneur précédent. Mais c'est sur la durée que ça marche. C'est un métier d'entraîneur. C'est pas vous mettez un nom. Sinon, on a qu'à on prend les plus grands footballeurs de l'histoire. Et c'est pas à part Zidane, Maradona, ça marchait pas. Bon, voilà. Donc Thierry Henry, il faut lui laisser du temps, il faut qu'il trouve un petit peu ses marques.
Et le groupe aussi, bien sûr.
S'il a fait un audit pour savoir pourquoi il y a autant de blessés, voilà, il faut qu'il aille voir la formation, ce qui se passe, s'il y a encore des pépites à découvrir. Voilà, c'est un chantier, c'est un métier harassant qui vous prend de 7h à 1h du
matin. Et les matchs tout le temps pour vous rappeler.
Et malheureusement, il y a la compétition qui continue. Là, exactement. C'est une autre. Évidemment, s'il gagne contre Bruges, c'est déjà pas mal.
C'est des victoires aussi qui donnent confiance évidemment. À un groupe envers son entraîneur.
Qui donne de l'élan.
Parce que vous pouvez être le meilleur. Joueur du monde, Thierry Henry, si vous perdez, au bout d'un moment, votre groupe va vous regarder en disant bon, lui non plus n'y arrive pas, quoi. Donc, c'est aussi les victoires qui vont amener cette confiance, qui vont amener cette alchimie entre lui et son groupe, même si on sait que c'est quelqu'un qui pue le football, qui pense football 24 heures sur 24. Mais on sait que le métier d'entraîneur, c'est difficile. Et il le sait, Thierry, puisque c'est ce qu'il a dit.
Et du coup, il le découvre en plus, parce qu'il était adjoint de Martinez, mais c'est pas. Voilà, là, il découvre son nouveau métier.
Ce match, en tout cas, oppose Monaco et Bruges qui ont 0 point dans ce groupe A de Ligue des Champions. Alors que une des belles affiches de la soirée, eh bien, c'est entre le Borussia Dortmund et l'Atlético Madrid. Les deux équipes en tête de ce groupe A, toutes les deux avec 2 victoires et qui pourraient, eh bien, ce soir commencer peut-être à se départager pour accrocher la première place. Alors, d'un côté, on a des jaunes et noirs en feu dans le championnat allemand, en tête de la Bundesliga, hein. Quand on a le Bayern dans son championnat, c'est pas simple. Avec Lucien Favre, le magicien, peut-être on pourrait dire, au bout de 3 ans qu'il a été à Nice. Mais l'entraîneur, justement, l'ex-entraîneur de Nice, se méfie de son adversaire espagnol, l'Atlético de Madrid, emmené par un certain Diego Simeone. Écoutons-le, Lucien Favre.
L'Atlético est l'une des meilleures équipes d'Europe. Ils sont toujours dans le top 3 en Espagne. Et ils ont déjà gagné des titres. Ils ont déjà disputé 3 finales de Ligue des Champions. Ils sont constants depuis 7 ou 8 ans. Et ça veut tout dire. Ils ont renforcé leur équipe cette année. C'est vraiment, vraiment une très grosse cylindrée.
Très grosse cylindrée, constante, mais moins brillante quand même en Liga qu'on l'imaginait. 5e, même si elle n'est qu'à 2 points du Barça qui est le leader. Les résultats donc d'un BVB invaincu, lui, en Bundesliga, qui impressionne Diego Simeone.
Nous allons affronter une équipe très forte qui a beaucoup de confiance en elle et qui sera soutenue par son public. Il s'agit du leader de la Bundesliga. Cela faisait longtemps là-bas que ça n'était pas arrivé puisque le Bayern avait toujours été en tête. Ils sont donc dans un temps très fort de leur saison. Nous devrons être intelligents dans le jeu pour pouvoir y répondre.
La sapienza de saber el partido que tenemos que enfrentar.
Alors finalement, Habib, qui est le plus fort entre Dortmund, son mur jaune et ce fameux Paco Alcácer qui aligne les buts, ou alors les Colchoneros avec Antoine Griezmann?
Mais vous l'avez dit, c'est le feu, et je trouve que c'est le feu face à l'eau. Mais il faut oublier que, parce qu'il faut pas oublier
l'eau glacée
que,
aussi,
non mais
hein.
Parce qu'il faut pas oublier que parfois l'eau est calme, mais lorsque l'Atlético est dans cette qualité de savoir défendre, derrière ça peut être vite un tsunami. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette équipe
c'est
prend
beau,
confiance, non mais parce que c'est un petit peu ce qu'a vécu par exemple l'Olympique de Marseille. Vous avez l'impression que pendant 30 minutes ça va se passer, que vous allez marquer un but, et puis derrière c'est la déferlante parce qu'ils ont de la grande qualité. C'est vrai que cette équipe de Dortmund cette année elle fait plaisir parce qu'elle marque des buts, parce qu'elle va vite vers l'avant. Ça ressemble à ce que faisait Klopp d'ailleurs il y a quelques années du côté de Dortmund. Ils ont Marco Reus qui n'est pas blessé, et ça c'est une bonne chose parce que c'est un joueur fantastique, et ça on le sait, mais qui
trop souvent blessé.
Maintenant je trouve que peut-être l'Atlético Madrid est sûrement la meilleure équipe d'Europe face à ce type d'équipe. D'être capable justement de supporter ces jets, cette pression constante d'un adversaire, de faire le dos rond et de vous piquer très fort lorsque vous découvrez un petit peu. Donc je dirais toujours avantage Atlético Madrid, mais par rapport à ma perception des choses, mais je pense que ça peut être un grand match.
Ouais, Bruno,
c'est une opposition de style extraordinaire.
C'est vrai que l'Atlético, c'est un peu le scorpion qui pique au dernier moment, alors que le BVB,
et
depuis
Dortmund,
ces dernières années,
c'est une équipe hyper généreuse, voilà, hyper offensive. Ils prennent les espaces, ça bouge dans tous les sens. Et on a pu voir lors des dernières saisons, les deux dernières saisons, notamment la Coupe du Monde, que les équipes qui ouvrent le jeu, généralement, elles le payent très cher. Et ça serait intéressant de voir si FAP peut passer au-dessus de ça et imposer son style sur la scène européenne. J'en suis pas sûr, notamment face à l'Atlético, mais même de manière générale. Et ça va être intéressant à voir. Mais après, l'Atlético, ouais, je suis d'accord avec Habib, c'est une équipe fantastique. Même quand ils sont dans des jours moins bien, ils ont cette capacité à faire le dos rond. Et on sait qu'à un moment donné, ils ont tellement de talent devant, avec Griezmann, Diego Costa, que de toute façon, on sait qu'ils peuvent, ils vont avoir des occasions, ils peuvent marquer à tout instant.
Puis ils ont une façon de ressortir le ballon sous la pression qui est magnifique, qui est incroyable. Ouais. Moi, c'est pas le football que j'aime. Moi, je préfère celui de Favre. Ouais. Je préfère le football de Dortmund.
C'est un peu le football de Didier Deschamps.
Ils ont été champions du monde un petit peu comme ça, mais il faut reconnaître que ce que fait Diego Simeone, c'est exceptionnel dans son genre, qui n'est pas le mien, mais je suis obligé de reconnaître que c'est fantastique.
Et là, ça va dans ce que vous disiez tout à l'heure, le travail sur le long terme.
Mais bien sûr, j'ai vu des.
Il a imposé un style.
Des Barça Atlético où ils étaient submergés, mais ils ressortaient le ballon d'une manière fantastique, quoi. Donc c'est un peu ce qui leur a panonné ce soir. Pour moi j'aimerais que ça soit Dortmund qui gagne parce que ça récompense
pour la beauté
du jeu. Football que j'aime. Mais bravo à Dortmund de si peu se tromper sur les entraîneurs. Bon, entre Tourelle et Favre, il y a eu quelques ils n'ont pas eu la main verte.
La main aussi heureuse.
Mais bon, quand on voit Klopp, Tourelle, Favre et ce qu'ils font sur la durée dans une tradition, voilà ce que c'est que l'esprit club, ce que le Paris Saint-Germain a du mal à construire depuis que le Qatar l'a racheté. Voilà ce que c'est que l'âme d'un club et qui perdure au fil des années. C'est génial à regarder.
Ils reviennent de très très loin.
Je suis tellement content pour Favre qui était qui est un personnage fantastique.
Il le voulait en plus. Hein. Ils l'ont désiré.
Il restait 2 ans, je crois, à Nice. Hein,
deux saisons.
Je crois qu'il restait que 2 ans et dès la fin de la première année, il le voulait. Oui, ça vous a paru long, mais c'était
non, ça m'a paru court, malheureusement, mais il aurait pu rester plus longtemps. Abordons une des dernières affiches de cette soirée. Voyons si vous allez deviner. Le quiz nouveau musical de David Finzel. Dominique, vous,
Patrick
le cinéphile.
Patrick Bouchité, La vie est un enfer tranquille.
Le film de Châtilliez d'il y a quelques années en arrière, n'est-ce pas? Alors, peut-être que Jésus viendra sur le terrain, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de Messi sur la pelouse du Camp Nou ce soir. Le Barça jouera sans son capitaine, alors qu'ils reçoivent quand même l'Inter Milan qui vient de remporter le derby milanais face au Milan AC. Deux clubs, a priori, qui peuvent, elles aussi, se disputer la première place du groupe B. Le Barça, qui avait gagné, on se souvient notamment du match de Tottenham, ses deux premiers matchs grâce à la Pulga, est-ce qu'il peut gagner face à l'équipe d'Icardi, Habib?
Oui, je pense que face à l'Inter Milan, l'absence de Messi sera préjudiciable, puisque c'est un joueur extraordinaire. D'ailleurs, on a vu que lorsqu'il s'est blessé et qu'il est sorti, on a l'impression qu'il y avait une chape de plomb sur le Camp Nou, que tout le monde retenait son souffle de savoir ce qu'il avait vraiment. Est-ce que le Barça était le Barça
ou pas?
C'était assez incroyable. Mais je pense qu'ils ont assez d'atouts pour faire la différence à domicile, on est d'accord, face à l'Inter de Milan, qui a gagné, c'est vrai, le derby, mais que je ne trouve pas forcément exceptionnel de
c'est
qualité
plus vraiment
collective.
C'est le derby des années 80-90.
Il y a bien longtemps qu'il a perdu de son lustre.
La chance de Barcelone, c'est d'être dans un championnat où il y a plus malade que lui, qui est le Real Madrid, mais c'est pas non plus fantastique depuis quelques mois. Après un bon début de saison,
est moins bon ces temps-ci.
On sent que Valverde, il a du mal à trouver la clé. Que Dembélé.
Alors Dominique, qu'il va prendre Ousmane Dembélé selon vous pour remplacer Messi?
Je ne sais pas. Il y a Coutinho qui joue pas assez à mon goût parce que je trouve que c'est un joueur fantastique. Alors c'est pas. De toute façon, Messi il est remplaçable. Donc après, faut soit changer de système, soit trouver une organisation. Différente parce que voilà, mais le jeu peut pas passer par Dembélé, par Coutinho, par Rakitic, par qui vous voulez, ça sera jamais pareil.
Mais ça reste le remplaçant idéal pour Lionel Messi, puisque on sait que quand Lionel Messi est titulaire, Dembélé est obligé de glisser sur le côté gauche, ce qui est un problème pour
quand
moi.
Quand il joue, ouais.
Lorsqu'il joue, ce qui est un problème pour moi parce que je trouve meilleur à droite, lorsqu'il justement il rentre à l'intérieur et qu'il arrive parce qu'il est pied droit pied gauche à éliminer. Donc logiquement, le remplaçant naturel de Lionel Messi sur un match comme celui-ci, ça doit être Dembélé.
Après, Habib, il y a ce débat philosophique. Il y a des gens qui pensent que Dembélé n'a pas le jeu pour jouer au Barça. gens qui pensent qu'au-delà de ses prestations, bonnes ou mauvaises, il n'est pas fait pour la culture Barça, les petits espaces, le petit jeu, tout ça.
Sa chance, peut-être, c'est que Valverde l'aime bien, hein, Bruno.
Moins ces derniers temps, quand même. Hein.
Oui, mais il l'a défendu souvent, quand même.
Il était trois fois de suite sur le banc. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a un mois et demi, on sait, quand il avait fait un super début de saison, il marquait. Je sais plus, 5 ou 6 fois en quelques semaines. On s'est posé la question, est-ce qu'il peut réussir vraiment Barça? Est-ce que ça y est, il est lancé? Et on avait tous dit que oui, mais il est très bon. Mais sauf que son problème, c'est sur le même. C'est est-ce qu'il peut être régulier sur une saison entière? Et là, on est un mois et demi après, on se rend compte qu'il est pas si régulier que ça et que les mêmes problèmes sont toujours là, qu'il est visiblement, il a pas tiré les enseignements de ses problèmes en dehors du football, ou du moins le côté sérieux de l'aspect professionnel du footballeur.
Et Deschamps l'a rappelé.
Il se fait piquer énormément par Deschamps, il se fait piquer par ses coéquipiers, en public, par voie de presse. Enfin, c'est quand même inquiétant, moi, je trouve, pour Dembélé. Après, il a une occasion énorme. S'il joue, mais je suis pas sûr qu'il joue.
Oui.
Parce que Valverde est aussi capable de repasser en 4-4-2. Coutinho, on l'attend peut-être plus dans un poste un peu plus haut côté gauche. Il pourrait très bien le mettre au milieu.
Et comme il a la carte, parce que nous, journalistes, on l'aime bien, donc on le gratine moins que si c'est un Kimpembe. Ah, il a fait un Francis Land affreux, lui aussi.
Ouais. Bah oui.
Et donc, mais on en parle moins parce que c'est Dembélé, on l'aime plutôt tous. Mais le niveau international, donc, comme l'a dit Habib, c'est au-dessus et il n'y arrive pas.
Alors, ce sera donc contre l'Inter ce soir au Camp Nou et il y aura peu avant, dans le même groupe, ce PSV Eindhoven face à Tottenham. A noter aussi que le Real ne perdra pas tout à fait son entraîneur. La victoire d'hier soir, petite victoire, a offert un certain répit à Julen Lopetegui qui sera là pour le Classico. Ça passe ou ça casse. And it went towards Cuadrado, and then there to tap it in is Paulo Dybala. Juventus strike first in the Champions League at Old Trafford, and it turned out to be a simple finish for Paulo Dybala. It's Manchester United 0, Juventus 1. Habib, on a choisi nos confrères anglais, mais on aurait pu vous choisir,
oui,
vous, hier, pour commenter.
Vous auriez pu. Les confrères anglais sont très très bons aussi.
Mais c'était pour commenter le but de la Juve, le seul de la soirée, ce but de Paolo Dybala, mais on les connaît, les Italiens, quand ils marquent après, eh bien, c'est difficile de les rattraper. Et les Red Devils ont été vaincus à domicile hier soir par une Juve donc efficace, dominatrice. Alors, je m'adresse à vous parce que vous étiez au stade, mais après on ira vers Bruno. Cette équipe de Manchester United, est-ce qu'elle vous a paru inquiétante? Vous avez fait un tweet, Bruno, où vous dites « Manchester United en 45 minutes, c'est 3 touches dans la surface adverse, un seul tir, le tout à Old Trafford. C'est désolant. »
Oui, alors elle m'inquiète forcément collectivement, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est le fait que Mourinho n'arrive pas à avoir la main sur cette équipe. Lorsqu'on regarde le match d'hier, on se rend compte que la Juve est bien supérieure à cette équipe de Manchester United individuellement et collectivement. Je pense que Mourinho l'a dit sur l'aspect de Chiellini et Bonucci. Mais j'ai regardé les statistiques. On avait 8 joueurs du côté de la Juve qui étaient à plus de 90% de passes réussies. Alors que les joueurs techniques de Manchester étaient, eux, à 72, 73, 75% pour Pogba, ce qui est insuffisant. Mais le problème, c'est qu'on a un entraîneur, en fait, qui ne change rien, qui ne voit pas les problèmes que rencontre son équipe et qui, sur 90 minutes, par exemple, aucun remplacement, aucune modification tactique. Le seul changement tactique qu'il y a eu dans ce match sur 90 minutes, c'est lorsqu'à la 70e minute, Martial et Rashford ont changé de côté. Vous rencontrez des problèmes face à une équipe qui vous balade, parce que ça a été ça pendant une mi-temps. La Juve a baladé Manchester United et vous ne changez rien. Vous n'avez aucun impact sur votre équipe, à part râler, à part lever les doigts pour dire j'ai gagné 3 titres. C'est très très bien. Je suis le premier à dire que j'étais un grand fan, un immense fan de José Mourinho. Je trouve que là il a perdu en fait tout
Contrôle
sur ce qu'il fait.
Vous avez bien vu, on l'appelle plus The Special One depuis longtemps.
Il a perdu tout contrôle de ce qui se fait sur une équipe. Et lorsque vous avez autant de matière à votre disposition, c'est-à-dire autant de joueurs de qualité, parce que lorsque vous me dites Lukaku, Rashford, Martial, Pogba, Mata, Matic, Alexis Sanchez, et vous n'êtes pas capable de produire sur 90 minutes un match de qualité. Et quand je dis sur 90 minutes, c'est que c'est comme ça aussi en Première Ligue. Je trouve ça très inquiétant pour Manchester United.
Oui, voilà. C'est Manchester United,
pire,
c'est ça l'inquiétude.
Et le pire,
Bruno,
c'est qu'il se défile derrière en n'assumant pas sa responsabilité, en expliquant, en vantant la Juventus
voilà.
de Turin.
Les autres sont super bons en défense.
On sait tous que la Juve est un club formidablement organisé, qui sont très malins dans le recrutement, ils dépensent 3 fois moins que Manchester United avec une équipe beaucoup plus compétitive. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est son équipe. Moi, j'ai pas trouvé la Juve extraordinaire.
La première période.
Non, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Mais le problème, c'est que les attaquants de Manchester sont inutiles, n'ont jamais posé de problème à cette défense de la Juve. Le problème, c'est que quand tu as une équipe qui est habituée, semaine après, week-end après week-end, à jouer bas, à défendre, à attendre son adversaire, quand il s'agit de s'exprimer collectivement, offensivement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de combinaison à trois, il n'y a plus de dédoublement sur les côtés, il n'y a plus de Lukaku, Lukaku est méconnaissable.
Mais ils n'écoutent plus leur entraîneur, ces joueurs?
Non, ça va au-delà. Je pense que ça va au-delà. C'est juste qu'on le sait, Mourinho, depuis son deuxième passage à Chelsea, il ne travaille pas à l'entraînement. Les joueurs s'en plaignaient, il ne se passe rien à l'entraînement. C'est des mises en place tactiques défensives de contrer l'adversaire, mais il ne se passe rien offensivement. Et à un moment donné, ça se voit sur le terrain. Et ça se voit depuis des mois et des mois et des mois à United, et notamment à Old Trafford, où ils ont fini la première mi-temps avec 30% de possession à Old Trafford. C'est du jamais vu.
Dominique.
C'est l'histoire d'un entraîneur qui s'est vampirisé lui-même, qui s'est frankensteinisé lui-même. Il a inventé un monstre. Celui
dont
du...
il est prisonnier.
Référence
cinématographique.
Non, mais qui est dépassé par son propre personnage, y compris dans sa communication, qui n'est désormais même plus drôle, même plus bonne, même plus intéressante. C'est-à-dire qu'on n'a même plus envie de le voir en conférence de presse et d'écouter ses sornettes, parce qu'on sait qu'il nous ment. Et sa stratégie du bus, de jouer de plus en plus, alors ça, c'est vraiment le football que je n'aime pas. Mais l'année dernière, par exemple, quand il va faire 0-0 à Séville, en refusant de jouer, il se dit « bon, bah j'ai fait 0-0 à Séville à l'extérieur, c'est bien, je vais pouvoir me qualifier ». Ben non, bah, retour. Mm-hmm. Il prend deux buts de Ben Yedder, et là, il n'avait pas prévu ça. Et donc, il est éliminé dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions.
Non, mais il fait même pas du Simeone en plus,
donc,
je veux dire.
Il a complètement perdu le fil de tout. Parce que il sait plus où il en est, en fait. Ça a été un immense entraîneur. Il fait des choses fantastiques. Il a un palmarès qu'on envie tous. On le félicite, on lui dit bravo. Mais à un moment donné, la vie est, voilà, on évolue tous. Et lui, non. Et ben voilà, il s'est piégé. Et aujourd'hui, il sait plus sortir de son piège.
Habib, ce 3, là, ces 3 titres, le
il l'avait déjà fait à Chelsea, d'ailleurs.
Exactement, il y a quelques jours avant. Ça veut dire, on a l'impression d'une sorte de...
C'est pas drôle.
Mais il vit dans le passé. Il vit sur le passé. Et ce qui est assez incroyable, hier, j'écoutais justement BT Sport, donc avec Lineker et Averio Ferdinand, Thierry Ferdinand expliquait, il disait en fait cette équipe de Manchester United, elle a décidé de sit back, donc en fait de rester derrière et d'espérer contrer l'équipe adverse. Sauf que vous jouez contre la Juve, une équipe qui a la science justement de défendre. Et quand ils vantent les mérites de Bonucci et Chiellini, c'est qu'il ne faut pas oublier que Mourinho a dépensé 300 millions. Même plus de 300 millions depuis qu'il est à Manchester United. Donc s'il avait voulu en fait des Chiellini ou des Bonucci, il aurait pu éventuellement essayer de les acheter. Ce qui n'a pas été son cas. Aujourd'hui, en défense centrale de Manchester United, on a Lindelof et Smalling. Et il vante les mérites d'une autre équipe alors qu'on lui a demandé d'analyser le jeu de son équipe. Donc il est en train de dire, quand on lui demande d'analyser le jeu de son équipe, ah oui, mais de l'autre côté, ils ont Chiellini et Bonucci. Est-ce que la réussite de la Juve ne passe que par Chiellini et Bonucci? Moi, hier, j'ai vu un joueur extraordinaire dont tout le monde, comme personne parle d'ailleurs, pas assez, c'est Pjanic. C'est somptueux, c'est exceptionnel ce que fait Pjanic dans cette équipe. Donc il n'y a pas que Chiellini et Bonucci. Il est en train de se perdre dans sa communication. Il est en train de noyer le poisson sur la qualité intrinsèque collective de son équipe.
Par son ironie.
Et qu'aujourd'hui il essaye de d'emmener tout le monde dans sa vision un petit peu
fantasmagorique du football. Quoi. Et le plus drôle ou le plus grotesque, Bruno, je sais pas, c'est quand il déclare après le match qu'il lui manquait un joueur qui était Marouane Fellaini, un joueur capable de changer le jeu de direction. Et là, j'ai des confrères anglais qui m'ont expliqué, ils m'ont raconté, on s'est tous retournés, mais est-ce qu'il parlait bien de Fellaini? Et c'est ça le problème de Mourinho, il ne parle à chaque fois que des joueurs qui ne sont pas là, en se défaussant sur ceux qui sont là.
Bruno, quand tu vois Pogba hier, il a envie de jouer dans l'autre équipe.
Bien sûr.
C'est exactement ça. Mm-hmm. Ce qu'a fait la Juve hier, c'est ce qu'aime faire Pogba. Quand je vois Pogba hier, il est prisonnier du jeu de Mourinho.
Et puis cette façon de trouver des boucs émissaires, justement, parce que le début de saison était rythmé sur les histoires avec Pogba et Mourinho, c'est insupportable, quoi.
En un mot, il est en danger ou pas?
Non, il ira a priori jusqu'à la fin de la saison.
Il est quand même à 9 points de Liverpool et City.
Ce soir, il y a des matchs aussi en Afrique. Ce sera les demi-finales retour de la Coupe de la CAF, le V-Club de Kinshasa qui rencontre l'El Masri. Et puis, on aura aussi le Raja de Casablanca face au club du Nigeria Enyimba. C'est la fin de ce Radio Foot. Une mention spéciale à David Finzel pour l'animation musicale et à Laurent Salerno.
Merci Annie.